Donc là, on est place Albert Ier. Donc en fait, c'est un énorme rond-point à feu. Donc c'est pas un rond-point priorité à droite. Et on voit sur ce rond-point donc qu'on a 4 ou 3 voies pour les voitures à chaque fois, mais qu'on a zéro signalisation pour les vélos. Donc c'est vraiment un endroit qui est assez dangereux parce qu'il va se déporter selon qu'on tourne à droite ou à gauche. Donc je m'engage sur la place Albert Ier et j'ai même pas peur.
C'était début mars, une semaine avant le premier tour des élections municipales. Nous vous proposions un reportage sur l'explosion de la pratique du vélo et sur son importance dans le scrutin qui s'annonçait. Et la bicyclette a bien été l'une des vedettes de cette élection. La mobilité et les déplacements urbains figuraient en bonne place dans la plupart des programmes des candidats. Et peut-être bien qu'à Tours, par exemple, l'une des villes qui a élu un maire écologiste, les difficultés de circulation des cyclistes ont joué un rôle.
Nous voilà sur cet axe très routier nord-sud.
Et rien au sol. Aucune délimitation, même pas de peinture, pas de bande cyclable.
Aucun aménagement pour les cyclistes.
Il faut maintenant voir si les changements politiques vont se traduire par des changements pratiques. Dans les grandes villes notamment, il va falloir modifier de nombreux éléments de voirie. Car pour se déplacer à vélo, il faut être certain de pouvoir le faire en sécurité, il faut pouvoir garer sa machine aisément et éventuellement être assez en forme pour dominer les dénivellations rencontrées.
Si on analyse la géographie du développement du vélo assistance électrique, c'est le vélo du milieu rural, c'est le vélo des zones avec plus fort relief. Par exemple, le premier département qui pratique le VAE, c'est les Hautes-Alpes.
En 2018, il s'était vendu 340 000 vélos à assistance électrique en France, une progression de 21% par rapport à 2017. Et on peut parier sur une hausse encore plus importante en cette année particulière, durant laquelle l'usage des transports en commun a été entravé par les mesures de distanciation physique. Pour mémoire, toutes catégories confondues, le marché annuel français est d'environ 2 700 000 unités. Et le succès de la prime gouvernementale pour la réparation d'un vélo ancien indique que de nombreuses machines vont revenir sur le bitume. Fin juillet, 400 000 chèques avaient été distribués. Un Français sur cinq habitant une ville de plus de 100 000 habitants pédale pour aller travailler. Depuis peu, on les appelle les vélotaffeurs. Mais la cohabitation avec les autres modes de transport, particulièrement la voiture, reste compliquée.
La vraie question, c'est est-ce qu'on fait aujourd'hui des villes pour des voitures ? Où est-ce qu'on fait des villes pour des personnes ?
Pour ce reportage, réalisé entièrement à vélo et en train pour les déplacements de ville à ville, Vanessa Descoureaux s'était rendue dans une des villes les plus cyclables de France. Bordeaux est cinquième du classement établi pour les villes de plus de 200 000 habitants par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui tenait justement son congrès quelques jours avant les municipales dans la capitale aquitaine.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonsoir, je vous invite à vous installer à vos places. On va commencer.
Nous sommes à Bordeaux, c'est le congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est une fédération qui regroupe de plus en plus d'associations locales de promotion du vélo. Et dans quelques minutes, le palmarès des villes cyclables sera dévoilé. Ce qui est intéressant, c'est que le précédent baromètre, le précédent palmarès date de 2017. Et cette année, la FUB a dû analyser 185 000 réponses de cyclistes. C'est 63% de plus qu'en 2017. Ça veut donc dire qu'il y a une envie, une appétence pour le vélo. Et les candidats municipaux sont bien prévenus.
Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour cette ouverture du 20e congrès de la FUB. C'est vraiment une grande nouveauté d'organiser un congrès dès le mois de février. Vous l'avez deviné, c'est dû au calendrier électoral. On est plus de 500 inscrits. Au dernier pointage, c'était 524, donc c'est vraiment une édition record.
Je m'appelle Olivier Schneider et je suis le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB.
Qui succombe à cet intérêt autour du vélo ? Les grandes villes, les villes moyennes, les zones rurales, tout le monde ?
Traditionnellement, il y a un stéréotype de dire que finalement le vélo c'est bien en ville. Ceci dit, beaucoup de gens en ville disent le vélo c'est bien, mais moi j'aime bien en faire à la campagne, là où c'est tranquille. Donc finalement, jusqu'à présent, le stéréotype c'est le vélo c'est bien pour les autres. Et ce que montre notre enquête, c'est que avec 185 000 répondants issus de plus de 5000 communes, avec 768 communes où on a eu suffisamment de réponses pour décerner une note, un classement par rapport à un climat vélo, ça fait 450 villes de plus que lors de notre premier baromètre. Ces 450 villes, ce sont des petites villes. L'intérêt des habitants des cœurs de métropole pour le vélo ne déemplit pas. Par contre, et la crise dite des Gilets jaunes est passée par là, les habitants des petites villes ou du périurbain disent « Attendez, mais nous aussi, on souhaiterait se déplacer sur des distances courtes et moyennes de 2 à 5 km. » Et 35% des déplacements, qu'on soit en milieu rural ou périurbain ou en ville dense, font 2 à 5 km. Mais ils disent « Aujourd'hui, en ville, c'est faisable. Nous, c'est pas faisable. » Donc le paradigme a changé. Il y a besoin de plus d'aménagements, mais il y a besoin aussi de plus de qualité de service. Il faut des vrais aménagements séparés, continus. Et donc ça, on le voit parce que les notes du baromètre baissent aux endroits où rien n'a changé. Ça veut dire que le niveau d'exigence augmente parce qu'il y a une prise de conscience sur le fait que c'est un sujet sérieux. Et c'est pas juste, suffit pas de prendre un coup de peinture et mettre un petit picto vélo et dire voilà, c'est ça votre piste cyclable.
Sauf que là on arrive au cœur du problème, c'est-à-dire l'éventuelle frilosité des élus. Parce que d'un côté, promouvoir le vélo, ça, on a bien compris qu'aujourd'hui personne ne disait l'inverse. Mais de l'autre côté, toucher la place de la voiture, c'est autre chose quand on est élu. Ça, vous n'êtes pas dupe devant cette situation toute humaine qu'elle est.
C'est l'enjeu numéro un. En réalité, dès qu'on a pris le vélo au sérieux, il faut admettre qu'on a un problème de dépendance à la voiture. Les élus, jusqu'à présent, avaient peur que d'avoir cette attitude les discréditerait aux yeux d'une partie de leur électorat. Je pense qu'ils doivent prendre conscience du fait que cette partie existe, mais qu'elle est de plus en plus faible. Et j'appelle aussi au courage politique. C'est un combat facile à gagner. Moi, j'ai pas d'idée pour résoudre les inégalités entre les milliardaires et les milliards de personnes qui ont quelques dollars par jour. J'ai pas d'idée forcément sur le réchauffement climatique ou l'épuisement des ressources, mais je pense que si on arrive à faire en sorte que les enfants puissent jouer dans la rue et aller au collège à vélo, on aura gagné un premier combat et peut-être que ça nous donnera des idées pour ces grands enjeux sur lesquels on n'a vraiment pas le temps. Donc on a vraiment intérêt à aller très vite sur le vélo pour ensuite se consacrer sur ces enjeux encore plus grands.
Donc, commençons notre petite balade des meilleures villes cyclables françaises par les communes de moins de 20 000 habitants. Ici, on a le coup de pédale soyeux. On a fait sienne la maxime de H.G. Wells, et je cite, « Les pistes cyclables abandonneront à utopie ». On se paye le luxe de présenter les meilleures notes, toutes catégories confondues. Avec des notes entre 4,5 et 4,2 pour le podium, nous avons ici les maillots jaunes du baromètre. Ce podium est également constitué exclusivement de petits nouveaux. Aucun d'eux n'était sur le podium, il y a 2 ans. Nous pourrions les surnommer les Kirikou du baromètre. Pas grands, mais vaillants et courant le plus vite.
On vient pour la réunion,
oui.
C'est ici.
Vanessa ?
Oui.
Enchanté, Fabien.
Vous êtes Fabien, voilà, enchanté.
Ravi.
Alors, il faut savoir que l'an passé, la métropole a préparé un schéma directeur cyclable métropolitain. Et c'est la première fois qu'il y avait eu, sur la métropole, un plan digne
Nous
de ce nom.
Nous sommes dans les locaux de l'association CC37 pour collectif cyclable d'Indre-et-Loire. Nous sommes donc à Tours. Et là, en ce moment, on assiste à une réunion avec les adhérents de cette association pour faire d'eux des ambassadeurs, en quelque sorte, de la cause vélo à l'approche du scrutin municipal.
Mais c'est difficile de répondre dans une réunion municipale.
Ah ben oui.
On évoque le sujet, puis on nous dit, bah, oui, ce sera au niveau de la métropole. Puis ben, c'est difficile d'enchaîner en disant ben « Oui, mais attendez, c'est aussi vous, la métropole. » Et c'est vrai que ça, dans les réunions municipales, on essaye de faire entendre un peu nos voix. Ça, c'est un sujet qui passe un peu à l'as. Quoi.
Je peux continuer ? C'est bon ?
Donc ici, c'est l'espace atelier. Donc avec de l'outillage, des pièces détachées d'occasion, des postes pour accrocher son vélo, Il doit y en avoir une dizaine. Voilà.
Il doit se mettre à l'intérieur, tu vois, il doit coulisser.
Fabien Frugier, voilà, salarié du collectif Cycliste 37, éducateur mobilité à vélo et chargé de développement.
Elle est voilée. On va la mettre en place quand même.
Il y a beaucoup de choses à améliorer. Peut-être que la première des choses, c'est essayer de penser le vélo, et j'ajouterai la marche à pied, comme mode de déplacement de masse. C'est-à-dire, imaginez que demain, je dis demain, c'est un peu 2025, 2030, il puisse y avoir 20-30% des déplacements qui sont faits à pied, et pareil, 20-30% des déplacements qui sont faits à vélo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui surtout œuvrent en matière de politique cyclable raisonnent à stock constant. C'est-à-dire on fait des aménagements cyclables pour les cyclistes d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de faire des aménagements cyclables pour les cyclistes de demain. Pour nous, il y a une règle d'or, c'est il faut penser à l'autonomie d'un collégien, par exemple. Est-ce qu'on laisserait un enfant de 14 ans aller seul au collège à vélo? Est-ce que l'aménagement le permet? Si la réponse est oui, pour nous, c'est un gage que l'aménagement a des chances d'être réussi. Et si c'est non, si le collégien, la personne âgée, ne peut pas prendre cet aménagement cyclable parce que il est trop compliqué, il y a des discontinuités, des ruptures d'aménagement, il est mal conçu, ben oui, c'est malheureusement, c'est raté.
Alors c'est quoi une bonne politique cyclable, un bon aménagement cyclable? Parce que si je me réfère à un autre chiffre, je lis que Tours a le plus grand nombre de kilomètres de pistes cyclables par habitant. Là j'ai envie de dire bravo, mais si je vous écoute, c'est pas très probant cette statistique. C'est quoi donc une bonne politique cyclable?
Pour moi, un bon aménagement cyclable, c'est un aménagement qui fait l'unanimité, c'est-à-dire sur lequel on va retrouver à la fois des cyclotouristes et on va retrouver la mère de famille, l'étudiant. Pour nous, aujourd'hui, c'est forcément un aménagement qui est séparé des piétons et des véhicules motorisés, qui fait une certaine largeur, qui est lisible et visible. Et j'allais dire, là, c'est très subjectif, mais pour moi, ce sont des aménagements qui donnent envie. Quand on les voit, on se dit, waouh, demain, je vais aller au boulot à vélo. Demain, je vais à la fac à vélo.
Cette élection municipale approchant, vous avez le sentiment que c'est la première fois quand même que cette problématique-là, cette thématique-là urbaine est prise autant en considération. Honnêtement, il y a 6 ans, le vélo, qui en parlait?
Je suis d'accord. Il y a, en 2014, pas grand monde en parlait. Ça n'intéressait personne. Et là, aujourd'hui, on voit fleurir dans les programmes des candidats, on voit fleurir des mesures qui ne sont pas toujours bonnes. Mais en tout cas, on sent vraiment une vraie acculturation des élus vis-à-vis du sujet vélo.
Non, l'intérêt est là.
L'intérêt est là. Et ce n'est pas seulement des élections municipales, c'est aussi des élections d'élus communautaires, métropolitains ou autres. Donc ce sont des gens qui vont avoir à décider demain de la politique des déplacements et de la politique d'affectation et du partage de l'espace public. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait aujourd'hui des villes pour des voitures ou est-ce qu'on fait des villes pour des personnes?
Alors, comme rien ne vaut la pratique, on va aller par nous-mêmes, Fabien Frugier, voir ces installations cyclables ici à Tours. Donc, on va faire une petite balade à vélo. On va préciser qu'on a des micros sans fil accrochés sur nos vestes, d'où une qualité de son parfois peut-être plus délicate que d'habitude. Et c'est Laurent Lucas qui assure cette prise de son acrobatique, dirons-nous, sur son vélo.
Donc, on quitte l'impasse. On arrive rue Édouard Vaillant. On entend bien les bruits de circulation.
Oui.
Voilà, nous voilà sur cet axe très routier nord-sud. Il passe plusieurs lignes de bus et un flot quasi ininterrompu de voitures et de roues motorisées.
Et rien au sol, aucune délimitation, même pas de peinture, pas de bande cyclable, rien.
Non, rien du tout. On est sur une voie dans chaque sens et il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun aménagement pour les cyclistes. Donc les cyclistes se retrouvent à rouler au milieu des véhicules.
Alors là, on vient de rentrer dans une zone de rencontre. Donc pour rappel, la zone de rencontre, c'est une rue limitée à 20 km/h pour tous les véhicules et où les piétons ont la priorité sur tous, puis viennent les cyclistes, puis les véhicules motorisés. Mais cette rue, merci,
ne fonctionne pas comme zone de rencontre parce que le trafic routier est trop important. Ça sert de raccourci.
Attention, hein, une voiture.
La piste bidirectionnelle la plus courte du monde.
15 mètres.
Mais après, elle permet d'avoir un axe nord-sud par ces petites rues et donc de rejoindre les quais de Loire. Bonjour. Là, on est sur une rue emblématique de Tours, la rue Colbert.
On est dans le vieux Tours, ouais, rue pavée, très étroite.
Avec beaucoup de commerces, bars, restaurants ou autres. Et c'est une zone de rencontre à nouveau, donc on peut trouver des voitures.
Alors qu'il y a des terrasses, des gens qui courageusement sont en terrasse en cette époque de l'année, oui. Mais je veux dire, c'est étonnant.
C'est étonnant, ouais, c'est étonnant.
Et la Loire est devant nous.
Et la Loire est juste à 100 mètres, voilà, on y va.
On va voir à quoi ressemblent les bords de Loire quand on est cycliste à Tours. On profite encore du calme de ces petites rues pour quelques instants parce que là, ça devrait changer. On arrive en bord de Loire. Et ça roule plus vite. Sur les bords de Loire, la piste cyclable n'est pas continue. Sur moins de 2 km, il faut traverser l'avenue deux fois si l'on veut rester sur l'aménagement dédié au vélo. En revanche, et là c'est un point positif, il y a un nombre satisfaisant de places de stationnement un peu partout en ville.
Interception sur France Inter.
Même animées des meilleures intentions cyclistes du monde, les communes sont, on l'a compris, confrontées à des problèmes d'adaptation très compliqués. On ne chamboule pas d'un claquement de doigts une voirie dédiée à l'usage de la voiture depuis des décennies. La continuité des itinéraires, notamment, peut être un véritable casse-tête.
Bonjour, monsieur Marca.
Vous
allez
bien ?
Ça va,
et vous ? Vanessa Descoureaux a rendez-vous avec un expert dont le métier est précisément de conseiller les collectivités locales.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Merca, je suis le cofondateur d'un bureau d'études spécialisé dans les questions de mobilité, et particulièrement du vélo, qui est intégré au groupe Indigo. On accompagne en fait les collectivités, alors que ce soit les communes, les intercommunalités, les régions, les départements, qui veulent engager une politique cyclable.
Est-ce que ça coûte cher, une bonne politique cyclable ?
Non, une politique cyclable, ça coûte pas cher, et pas cher du tout. En gros, quand on raisonne sur la mobilité voiture, c'est 270 euros par an et par habitant. Une politique de transport en commun en France, c'est 490 euros par an et par habitant. En France, on met 8 euros par an et par habitant dans les politiques cyclables. C'est pas assez. Il y a des bons élèves qui font beaucoup plus, qui mettent entre 15, 20 et demain 25 euros. C'est plutôt les grandes villes. Donc c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Grenoble, c'est Bordeaux, c'est Toulouse, c'est Nantes. Donc un certain nombre de villes qui aujourd'hui ont compris qu'il fallait mettre suffisamment d'argent dans le vélo. Les Pays-Bas, ils mettent en moyenne 30 euros par an et par habitant. Malheureusement, on a une vraie rupture, une fracture territoriale en France, puisque les territoires ruraux mettent en gros 1 ou 2 euros dans les politiques cyclables.
Il faudrait combien d'euros par an et par habitant et sur combien de temps pour rattraper notre retard ?
Avec 30 euros par an et par habitant sur 10 ans, on fait une très bonne politique cyclable et la France rattrape son retard sur les pays européens. Ça se joue maintenant. En un mandat, on est capable de changer la politique cyclable de la France. C'est justement maintenant qu'il faut investir. C'est justement parce que les collectivités ont peut-être moins de ressources à mettre en avant qu'il faut investir dans une politique vélo parce que c'est vraiment la moins chère. C'est une politique qui est pas chère pour les individus. En gros, une voiture, c'est 34 centimes du kilomètre. Un vélo entretenu régulièrement, c'est 10 fois moins. Et puis, c'est pas cher pour les collectivités.
Est-ce qu'il y a aussi des gains en termes de santé publique ?
Oui, les gains de santé publique sont considérables. En gros, l'économie du vélo en France, c'est 9,5 milliards d'euros. Si je regarde les bénéfices santé de la pratique du vélo en France, aujourd'hui, alors que la pratique est faible, c'est 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que les impacts de santé publique Maintenant, alors que la pratique est faible, c'est plus que tout reste, que le tourisme à vélo, que l'achat des vélos, que les infrastructures cyclables, que les locations de vélos.
Au niveau national, l'objectif, c'est d'atteindre 9% de part modale, ça veut dire 9% de déplacements à vélo d'ici 2024. Est-ce que ça vous paraît tenable, réalisable ?
Alors 9%, c'est non seulement tenable et réalisable, c'est rejoindre la moyenne européenne. Donc 9%, c'est faisable.
Nous sommes à 2,5 aujourd'hui, il faut le préciser.
On est à 2,5, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait quadrupler la pratique très facilement. Le problème, c'est à quelle échéance et pour quels investissements. Donc il faudrait faire vraiment des investissements importants si on veut le faire, en gros, à horizon 2024. À horizon 2030, ça paraît plus faisable, mais investissons maintenant dans la pratique cyclable, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tous les clignotants sont ouverts. L'opinion est favorable. D'un point de vue des budgets des collectivités, c'est un point qui est très positif pour les 6 prochaines années de mandat. Et puis, les impacts santé sont tels que c'est une politique cyclable qu'il faut engager maintenant.
Ça s'est déjà vu, justement, en un mandat, des évolutions spectaculaires sur un territoire en particulier ?
Alors,
aussi rapidement que ça ?
Ah, complètement. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on le trouve dans des territoires latins. On trouve des très très bons exemples en Italie.
Donc, des gens aussi peu disciplinés que nous essayons de vous les dire.
Exactement. Et des gens tout aussi attachés que nous à la voiture. Une ville comme Séville, par exemple. Séville, qui est pourtant une ville pauvre, c'est pas une ville riche. C'est une ville qui, en un mandat municipal, a réussi, avec relativement peu d'aménagements cyclables, mais des aménagements continus, à passer de 0,6%, c'est-à-dire une inexistence du vélo, à 6%, c'est-à-dire à se rapprocher de la moyenne européenne et à largement dépasser la moyenne française. 2,5% en France, 9 à 10% dans la moyenne européenne. Donc on est dans le groupe étau de l'Europe.
Retour en Indre-et-Loire. Ce matin-là, malgré la pluie, la vélo-école pour adultes est maintenue. Ce sont des cours pour ceux qui veulent apprendre ou réapprendre à se familiariser avec la bicyclette. À Tours, l'an passé, une centaine d'adultes a été formée. On va aller voir Stéphane avant sa sortie courageuse sous la pluie. Qu'est-ce qui vous a conduit ici à ce cours de vélo-école pour adultes ?
Ben, ça a été auparavant un organisme qui s'appelle Régie Plus, qui m'a permis en fait, de découvrir avec mon groupe. On est des personnes en recherche d'emploi, donc en insertion presque. On se rend pas souvent compte qu'il y a énormément de techniques et c'est pas tout le monde qui peut dire « je sais faire du vélo en fait ».
Qu'est-ce que représente le vélo pour vous ?
Je travaille dans le secteur de la grande distribution et il y a des extras qui peuvent se faire à des horaires tels que 20h, 22h et travailler jusqu'à genre 2h du matin. Et pour rentrer par la suite, et étant donné qu'il n'y a pas de transport en commun, voilà, c'est pratique plutôt que de compter sur quelqu'un pour se faire amener. Donc j'ai connu ça et donc je me suis dit, bon voilà, une fois, deux fois, c'est bien, mais après, bon voilà. Faut que je trouve un moyen de me débrouiller par moi-même.
Donc pour vous, c'est l'autonomie,
oui,
le vélo.
Oui, l'autonomie, c'est ça. Je me dis qu'en faisant du vélo et me retrouver sur la route aussi, ça peut me permettre, parce que bon, moi, je vise repasser la conduite par la suite, donc reprendre de la confiance, mais voilà, avec ce que je peux.
On emmène un peu d'équipement, de l'eau, du ravitaillement, aussi une trousse de secours et puis des plots pour travailler peut-être avec l'élève.
Patrick, retraité, jeune formateur ici. Qui vient ici ? Qui sont vos élèves, entre guillemets ?
Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de femmes étrangères, qui trouvent dans le vélo à la fois un aspect professionnel pour aller travailler. Elles sont femmes de ménage, elles embauchent à 4h, 5h du matin, il n'y a pas de transport, et en ville, il y a tout de suite 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie de marche à pied. Et le vélo, c'est tout de suite rapide, donc un usage professionnel. Et puis, un usage aussi de liberté, vraiment le vélo liberté est important. Quand on voit les femmes du Moyen-Orient, il y a des Irakiennes, il y a des Syriennes, il y a des Iraniennes, et tout ça, c'est ensemble. Et le vélo, pour elles, elles ont à cœur d'en faire, elles n'ont jamais fait ou alors vraiment monté un petit peu dessus comme ça. Quelquefois, c'est des mauvais souvenirs, des chutes ou des accidents. et elles reviennent dessus, elles ont 40 ans, elles ont 50 ans et elles sont mordues, c'est incroyable quoi de les voir et de la volonté qu'elles ont de vouloir faire du vélo parce qu'il y en a qui débutent de zéro quoi. On reprend sur la Dresienne, on commence comme ça et puis tout doucement et le premier coup de pédale, c'est un cri de joie quoi. Elles s'esclavent, elles sont heureuses du premier coup de pédale.
Et en tant que formateur, vous, le premier coup de pédale qu'on voyait...
Ah, c'est formidable. Oui, c'est aussi... Oui, je ne l'ai pas dit. Oui, alors, je crie moins fort qu'elle, mais on est heureux. Oui, on est heureux. On vient, il y a des... Voilà, le premier coup de pédale, c'est important. Quand on y arrive, bah oui, c'est beau. C'est beau, c'est bien, c'est formidable.
Bon, d'accord. Oui,
courage. Ouais.
C'est bon, Stéphane ?
Ça y est.
On est parti ?
Oui.
Allez, vas-y, je te laisse prendre ton vélo. Tu vas passer sur le Falin, là.
Oui.
Et ici, tu vas revenir. Après avoir fait ici un slalom qui va se compliquer. Donc il faudra que tu doses ton freinage. Et plus loin, tu as un couloir. Tu passes au milieu des plots.
D'accord.
Ok ?
Oui.
Ensuite, là-bas, tu as un dernier plot rouge. Ensuite, le tour complet autour du plot rouge. Là-bas, au bout, tu as un virage... difficile à droite.
Pour revenir ici.
Ouais, et en montée.
En montée.
Attention.
D'accord.
Donc tu vas devoir gérer ton changement de vitesse, être sur une petite vitesse pour pouvoir relancer. Ok ? Et ici, tu arrives là sur la bordure de trottoir, et c'est le seul endroit où tu vas poser pied à terre. Ça te va ? Je te remonte tout ça.
Oui.
Tu me suis ?
D'accord. Oh ! Ah ! C'est pas évident.
Au hein. Suivant. Ah, tu ralentis. Ouais, super. J'ai bien entendu tes freins là. T'accélères.
J'ai failli me vautrer. Je vais le refaire.
Voilà, super. Excellent. Est-ce que c'est plus facile ?
C'est mieux, oui.
C'est ce que je voulais t'entendre dire. Allez, demi-tour. Là, tu vas essayer de te lever de selle.
Trop vite.
Super. Ouais, chapeau, ouais. On peut lui tirer notre chapeau. Notre casquette. Ou notre bonnet. Notre bonnet, ça dépend. Ou notre casque.
Nous sommes à Brest et nous allons à la rencontre des membres de l'association BAPAV pour Brest à pied et à vélo.
Ah pardon, je suis là. Ah merde, désolé. Putain, à chaque fois, c'est la même chose.
Aucun problème.
Bonjour. Simon, enchanté.
Vanessa, enchanté.
Bienvenue.
Brest, c'est une ville assez intéressante parce qu'il y a une dizaine d'années, elle a été élue clou-rouillée par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est donc dire s'il y a du chemin à faire ici et c'est ce qu'on va voir en roulant sur les axes principaux de la ville.
On peut peut-être s'arrêter là pour regarder le rond-point. Je suis Simon Potier, coprésident de BAPAV, Brest à pied et à vélo. Donc là, on est place Albert Ier. Donc en fait, c'est un énorme rond-point à feu. Donc c'est pas un rond-point priorité à droite. Avec beaucoup de voitures qui arrivent toujours dans tous les sens. Alors que là, pendant, on est samedi matin, donc il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais il y a quand même pas mal de voitures. Alors aux heures de pointe, c'est vraiment beaucoup plus fréquenté que ça. Et on voit sur ce rond-point donc qu'on a 4 ou 3 voies pour les voitures à chaque fois, mais qu'on a zéro signalisation pour les vélos. Donc c'est vraiment un endroit qui est assez dangereux parce que il va se déporter selon qu'on tourne à droite ou à gauche. Donc je m'engage sur la place Albert Ier et j'ai même pas peur. Donc là, j'arrive au premier feu, là, sur la place. Je tourne à gauche, j'ai pas de sas vélo. Il y a une voiture qui me double à droite, qui va falloir savamment se placer au prochain feu, en faisant gaffe aux voitures qui arrivent par derrière, pour pouvoir quitter la place.
Pour cette petite balade à vélo, il y a aussi Michel qui nous accompagne. Le stationnement, c'est quand même vraiment très compliqué ici, d'une manière générale.
Oui, d'une façon générale, à Brest, les maisons n'ont pas été conçues pour abriter des vélos. Le centre-ville a été reconstruit après la guerre. On pensait pas du tout aux vélos. Et puis même dans les années 70-80, on a construit un grand quartier neuf, on va dire, qui s'appelle Bellevue, qui contient actuellement 20 000 habitants à peu près. Il n'y a pas un seul garage à vélo dans les immeubles, il n'y a pas d'aménagement vélo, enfin il n'y a rien de prévu, quoi.
Tout voiture.
Tout voiture.
Vraiment, d'une manière générale, on a fait une rapide balade et elle n'est pas terminée. On a pris 4 ronds-points pour venir jusqu'ici. 4 ronds-points, aucun avec un aménagement cyclable.
Oui, effectivement. En gros, oui. En gros, oui. Le problème des croisements et des carrefours, des ronds-points à Brest, c'est vraiment un gros problème au niveau vélo. Il y a 1 à 2% des déplacements à Brest qui se font à vélo. On a l'impression d'une augmentation assez importante depuis un an ou deux, mais bon, on verra au prochain sondage.
Eh bien, on va poursuivre cette visite de Brest à vélo. Un peu de vent, pas de pluie, toujours pour le moment, ça tient bon. Le ciel est couvert, mais il tient pour l'instant.
Magnifique. Là, on est toujours rue de Siam, on a descendu un petit peu et on est devant la librairie.
On a slalomé un petit peu.
On a slalomé un petit peu, voilà, c'est ça. On a hésité entre le trottoir et le tram. Donc, on s'est retrouvé à slalomer entre les piétons, les pauvres. Pas agréable pour eux non plus. Du coup, voilà, on s'arrête devant la librairie Dialogue puisque c'est le seul endroit à peu près de la rue de Siam où on a des arceaux vélos. Donc là, on a 5 arceaux vélos, donc on peut mettre 10 vélos. Il y en a peut-être un ou deux à d'autres endroits, mais sinon, donc, on a une rue qui est vraiment commerçante, quoi, avec peut-être une cinquantaine de magasins. Et il y en a au milieu, voilà, seulement c'est 5 arceaux vélos. Alors il y en a aussi un petit peu plus haut, mais il n'y en a clairement pas assez.
C'est quoi? C'est un manque de culture vélo qui fait qu'on ne pense pas à ce qui peut paraître comme une évidence, c'est-à-dire attacher son vélo le temps de faire ses courses?
Ah oui, je crois que c'est complètement un manque de culture vélo et même un manque de prise en compte, parce que tout simplement, au moment d'aménager cette rue, il y a une dizaine d'années, ils n'ont tout simplement pas pris ça en compte. Ils l'ont oublié parce que ça faisait pas partie, comme vous dites, de la culture des aménagements. Mais ça, c'est un problème qui est assez générique en France, parce que de toute façon, tous les techniciens de voirie ou les ingénieurs de voirie ne sont pas formés à ça. C'est quelque chose qui est pas pris en compte dans les formations. Donc c'est difficile de trouver des gens qui sont compétents là-dedans et qui savent faire des aménagements cyclables de qualité. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a quand même quelques points de technicité qu'il faut arriver à prendre en compte pour pouvoir faire des aménagements qui sont vraiment sécurisants, qui sont facilement empruntables, qui sont bien faits, qui ne créent pas de discontinuité. Et ces compétences-là, on ne les a pas encore en France. Enfin, ça se développe, mais il y a encore du travail.
Interception sur France Inter.
Quittons Brest quelques instants pour retourner dans le bureau de notre expert. Vanessa Descoureaux a interrogé Nicolas Merca, cofondateur d'un bureau d'études spécialisé dans les mobilités, sur la laborieuse émergence de cette culture vélo qui fait encore défaut aux Français en général et à leurs élus en particulier.
On a vraiment un développement de la pratique et qui est, je pense, un développement de long terme dans le centre des grandes villes. Dans le centre des grandes villes, on a une progression qui est une progression à deux chiffres et qui, à mon avis, n'est pas prête de s'arrêter parce que le vélo est efficace. Une ville comme Paris, par exemple, le mode de transport le plus efficace, le plus rapide, c'est le vélo.
Pour vous, un jour, il y aura plus de trajets et de déplacements à vélo à Paris qu'en voiture?
Ah ben, clairement, la voiture aujourd'hui à Paris, c'est 13% des déplacements et c'est une pratique qui est plutôt en baisse. Là, lors des grèves, la part modale du vélo est montée au-delà de 10%. Donc je pense que dans quelques années, et ça va venir très vite, avant la fin du prochain mandat, on aura plus de vélos que de voitures. Ça, c'est à peu près sûr.
Mais la France n'est pas Paris, et la France même pas urbaine, d'ailleurs.
Et tout à fait. La France du centre des grandes villes, c'est 20% de la population française. Il faut pas l'oublier. Et donc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que cette forte augmentation de la pratique du vélo dans les grandes villes, elle cache une baisse et parfois même une chute. Pas tout ailleurs, mais au moins dans les territoires ruraux et les territoires périphériques.
Qui, historiquement, originellement, sont ceux où on pratiquait le plus le vélo. Ça vient d'où ce décalage?
Incroyable, ça on l'a complètement oublié. Il y a 25 ans, les territoires qui pratiquaient le plus de vélo, c'était les territoires ruraux et les territoires périphériques. Et c'est il y a 25 ans, pas il y a 50 ans. Alors pourquoi? Parce qu'on a construit des territoires pour la voiture, en termes de stationnement, en termes d'infrastructure, et on a complètement oublié la pratique du vélo.
Une fois qu'on a constaté cette fracture territoriale, comment on peut gagner des nouveaux publics, on va dire, de cyclistes?
Alors, il y a un outil nouveau qui va permettre, je pense, de contribuer à réduire la fracture territoriale et qui est très, très intéressant, c'est le vélo assistance électrique. Si on analyse la géographie du développement du vélo assistance électrique, c'est le vélo des champs, c'est le vélo du milieu rural, c'est le vélo des zones avec plus fort relief. Par exemple, le premier département qui pratique le vélo, le VAE, c'est les Hautes-Alpes. Dans les tout premiers, il y a également l'Ardèche. Donc on a des territoires complètement nouveaux qui s'intéressent au vélo, et le vélo assistance électrique est, à mon avis, un outil qui va permettre de développer tout le négatif du vélo classique. C'est-à-dire qu'il est bon là où le vélo classique est pas bon, auprès de personnes de plus de 50 ans, auprès des femmes, sur des déplacements beaucoup plus longs, sur des déplacements de 8 km contre 4 km pour le vélo classique, avec une fréquence de pratique qui est beaucoup plus élevée. Un vélo assistance électrique fait 2000 km par an, là où un vélo classique en fait 400. Donc c'est vraiment feu vert pour le vélo assistance électrique. J'étais un petit peu dubitatif il y a 10 ans, mais là c'est vraiment le feu vert et ça va être un allié.
Parce que là, c'est vraiment des gens qui n'avaient aucune raison de se mettre au vélo qui arrivent sur des vélos assistance électrique.
À 70%, c'est un passage de la voiture au vélo électrique. Donc ça, c'est très bien d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de santé publique. C'est vraiment une très bonne chose.
Nous revenons à Brest, mais cette fois, nous nous arrêtons sur le quai pour prendre le tramway. Nous allons jusqu'à la sortie de la ville pour voir s'il est facile de passer d'un moyen de transport à un autre.
Bon, il y a des autocollants accès vélo, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire quand même.
Non, en effet, ça n'a pas l'air forcément très prévu, ouais, quand il y a des gens. Mais bon, on a quand même réussi à passer et on s'est pas fait rejeter, donc c'est bien. On peut prendre le tram à vélo.
Donc là, on va jusqu'en bout de ligne, c'est ça ?
Voilà, là, on va jusqu'à la porte de Guipama, du coup, en bout de ligne, pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'intermodalité, puisqu'on a là-bas un parking à vélo, plutôt donc courte et moyenne durée, quelque chose qui ferme à clé. Et on va regarder s'il est bien en vue, s'il est utilisé, et voir un peu les aménagements autour de ce parking vélo et de cet arrêt de tram, de bout de tram, voir un peu si en effet c'est accessible à vélo pour les gens qui viendraient d'encore plus loin.
Aux abords d'une zone commerciale, devant un parking vélo parfaitement sécurisé, une vingtaine de places, seulement 4 sont occupées. Ou comment un bon aménagement peut malgré tout être sous-utilisé.
Bonjour, bonjour.
David, du David, coup, voilà. Vélo taffeur, Vanessa, là,
avec son vélo cargo.
Ex, malheureusement.
Ex, voilà,
ex vélo taffeur.
Je vais juste me laisser faire un peu de manœuvre. Et voilà, je suis garé.
David, votre lieu de résidence et votre lieu de travail sont distants de 5 km. On estime d'ailleurs que c'est dans la fourchette du trajet idéal pour le vélo. Pourquoi vous avez abandonné le vélo ?
Le danger, la peur d'y rester. La peur que cet automobiliste qui vous a frôlé hier, le lendemain, il vous fasse plus que vous frôler. Il vous renverse, il vous rentre dedans parce qu'il est occupé à tenir au téléphone, parce qu'il ne regarde pas où il va. Prendre ces risques sur lesquels vous n'avez aucune prise, c'est trop.
Il n'y a pas assez d'installations sûres sur votre trajet, trajet qui est hors de la ville de Brest, hein, il faut le rappeler.
Tout à fait, j'ai un petit quart de mon trajet qui est sécurisé par une piste cyclable bien délimitée. Et puis au bout de cette piste cyclable, j'arrive sur le macadam, le bitume. Et là, effectivement, je côtoie bien contre mon gré des automobilistes qui sont limités à 70 et qui du coup estiment que la vitesse adaptée à l'instant T, c'est 70, puisque c'est ce qu'indique le panneau. Que je sois là ou pas. Et du coup, effectivement, sur ce trajet de 5 km qui est en pleine campagne, justement, en dehors des villes, où on peut espérer pouvoir profiter du paysage, de la nature, on profite plutôt de sécuriser, de serrer les bords de bitume, pas forcément toujours très propres ou bien stabilisés, pour se mettre en sécurité sur une route qu'on est censé partager.
Il y a de la frustration, parce que vous êtes un vrai cycliste, vous avez adoré faire ça tous les matins, tous les soirs en rentrant. Il y a de la frustration désormais ?
C'est plus que de la frustration, c'est de la colère envers toutes ces fois où, pendant 2 ans et demi, on a frôlé sa vie 1 jour sur 2, les bonnes semaines, plus souvent que ça, les mauvaises. Et effectivement, c'est une frustration énorme parce que c'est une volonté personnelle de faire du sport à moindre frais, pas besoin d'aller dans une salle de sport. C'est des économies pour la famille puisque c'est pas de deuxième voiture, pas de deuxième assurance, deuxième entretien, deuxième carburant. C'est tout un tas de choses qui vous avez estimé être bonnes pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Et puis on se rend compte que c'est trop risqué. Donc oui, une frustration phénoménale.
Vous vous déplacez comment désormais ?
Pour ce trajet de 5 km que j'ai pratiqué pendant 2 ans et demi en vélo, et bien maintenant je suis passager dans la voiture des collègues qui ont l'amabilité de faire du covoiturage avec moi.
Vous excluez complètement de revenir un jour au vélo ?
Exclure complètement, non. Exclure tant que le trajet n'est pas sécurisé, ah oui, sans aucune hésitation.
Frédéric Errand, économiste des transports et urbaniste à l'Université de Lille et auteur du Retour de la bicyclette, un ouvrage paru en 2014 à La Découverte.
Tout d'abord, on va essayer de parler, de comprendre comment on a perdu notre culture vélo ici dans ce pays.
Dans les années 30, nous faisions énormément de vélo. Tous les Français circulaient à bicyclette. Il y avait au moins une bicyclette par ménage. Et nous avons perdu cela parce que nous nous sommes motorisés via le deux-roues. Le deux-roues motorisé, la fameuse mobilette, le Solex, ont fait des ravages dans les années 50-60.
Ça veut dire que le vélo a été ringardisé par ces deux-roues motorisés ?
Le vélo a été ringardisé effectivement dès les années 50-60. Pour se déplacer de façon efficace, il fallait prendre un deux-roues motorisé. Le slogan des constructeurs de deux-roues motorisées, c'était, pour le Solex, une bicyclette qui roule toute seule. Et pour la mobilette, c'était un vélo avec un bon petit vent arrière permanent.
Donc un vélo en bien mieux, en fait.
Oui, c'est ça, oui. Un vélo sans fatigue, quoi.
Ça explique majoritairement le déclin de la pratique du vélo à ce moment-là en France.
Il y a une autre raison, c'est bien sûr la montée du trafic auto et les dangers qu'il représente pour les cyclistes à cause de la vitesse croissante de ce trafic motorisé, de son intensité également, qui ont rendu peu à peu très dangereux la pratique du vélo.
Cette dégringolade de la pratique vélo au sortir de la guerre jusque dans les années 70, on la constate uniquement en France ou c'est un phénomène assez global en Europe ?
Dans tous les grands pays européens, on la constate, y compris aux Pays-Bas. En France, la pratique a été divisée par 6 en 25 ans. Aux Pays-Bas, elle a été divisée par 3, et pour les mêmes raisons.
Sauf qu'il y a un moment, aux Pays-Bas, où la pratique du vélo repart, ce qui n'est pas le cas chez nous. Qu'est-ce qui explique, dans un cas de figure, que ça repart, que ça redémarre et pas chez nous ?
Aux Pays-Bas, on n'a pas cherché d'abord à relancer le vélo, on a cherché à encadrer le trafic automobile. Il provoquait de gros problèmes dans les villes. D'abord, un envahissement des espaces publics, terrible, comme en France aussi. Mais ensuite, ce trafic auto écrasait les enfants qui jouaient dans la rue. Une des raisons, effectivement, qui explique que tout cela a commencé aux Pays-Bas, cette volonté d'encadrer le trafic automobile, c'est que c'est le pays le plus dense d'Europe. Et qu'à cause de cela, la voiture a posé plus de problèmes qu'ailleurs.
Donc aux Pays-Bas, la volonté n'est pas de promouvoir le vélo à ce moment-là, mais c'est d'abord de modérer le trafic auto.
Oui, et quand on modère le trafic automobile, on constate toujours que c'est le vélo qui en profite le plus, parce que c'est lui le plus exposé au danger du trafic, à son intensité et à sa vitesse.
Et nous, en France, à ce moment-là, on fait quel choix ?
Nous, on est empêtrés dans le problème des transports publics insuffisants. On a délaissé nos transports publics, on cherche à les relancer dans les années 70-80. C'est comme ça qu'on a d'abord construit des métros, ensuite des tramways dans les villes moins grandes. On a délaissé la cause du vélo à cause de cela.
Donc pour en revenir à ce débat des municipales, ça vous surprend pas de voir qu'on parle dans les petites, moyennes villes, grandes villes de vélo ?
Non, et non seulement ça ne me surprend pas, mais on n'a encore rien vu, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, dans 6 ans, vous verrez, ce sera encore plus marqué, et dans 12 ans encore plus, parce que c'est évidemment pas la solution à tous les déplacements, c'est évident, mais c'est quand même une bonne part de la solution.
Beaucoup voient dans le vélo un symbole de respect de l'environnement et des autres citoyens, mais au risque d'attrister les idéalistes, un Parisien, ça restera toujours un Parisien.
Tu vois pas que c'est vert là, connard ? La bouche, ta mère !
Mais vas-y, passe !
Municipal, l'échappée belle du vélo, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux, diffusé le 8 mars dernier avec une prise de son en selle de Laurent Lucas, disponible également sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, mixage Mathieu Tourin. La semaine prochaine, ce sera le début de la 22e saison d'Interception. Avec toute l'équipe, Violaine Ballet, Vanessa Descoureaux, Géraldine Allot et Martine Messonnier, nous sommes ravis de pouvoir vous accompagner pour une nouvelle année de grands reportages à hauteur d'homme, du bout du monde au coin de la rue.